Chapitre 8. Dès la première seconde, Martin Wurtz avait reconnu Christen. La barbe, certes, le vieillissait d'au moins 10 ans, et sa panoplie de prélats romains lui donnait un air solennel. Mais l'Allemand ne fut pas surpris. Dans le Berlin un peu fou de la fin des années 20, Lloyd s'était fait une réputation d'imitateur. À la fin d'un dîner, il lui arrivait souvent, à la demande générale, de se lever de table et d'enchaîner, sous les applaudissements, de brèves imitations en plusieurs langues. Il devenait soudain Stanley Baldwin, le premier ministre, Mosley, le leader fasciste, et Hitler, l'étoile montante de la politique allemande. Le clou du spectacle était un sketch peaufiné au fil des soirées, une interview de Gandhi par Mussolini. Or, ce matin-là, dans le bureau de Canaris, c'était bien Gandhi que Christen avait une fois de plus imité. Il n'avait, en descendant l'escalier, que 2 ou 3 minutes pour faire le point. Christen obtint l'adresse de Subhas Chandra Bose. « Tapa est avec moi, dit-il. Nous repassons la frontière demain. Viens nous rejoindre avec Jutta dès ce soir. » Au moment où ils se quittaient à l'entrée, Christen glissa dans la main de son ami le plan qui lui permettrait de trouver la propriété du major Drucker. Puis le faux prélat quitta l'Abwehr et, sans se presser, fit les quelques pas qui le séparaient de la voiture où l'attendait Tapa. Il disposait de quelques heures pour liquider Bose. Canaris l'avait-il cru? Christen en doutait. En bon acteur, il était sensible aux réactions de son public. L'amiral était un finaud. Il ne tarderait pas à découvrir que Mgr da Silva était inconnu à la nonciature de Berlin. Martin remonta et bifurqua vers le couloir qui conduisait au bureau de sa sœur. Sa décision était prise. Il fallait en effet quitter l'Allemagne et profiter du plan préparé par Christen. Ce qui signifiait tout abandonner le jour même et sans espoir de retour avant la fin de la guerre. Il leur restait donc peu de temps pour récupérer les passeports. Par chance, tout était prévu dans les moindres détails. 2 secrétaires travaillaient dans la même pièce que Jutta. Martin les salua d'un coup de tête amical et se dirigea vers sa sœur. « Excuse-moi, Jutta, dit-il à voix haute, mais je voulais te dire que je serai en retard ce soir. Je dois faire une nouvelle radio à l'hôpital. » Ce qui signifiait qu'il partait le jour même. Jutta lui sourit et, d'un geste presque imperceptible, montra qu'elle avait compris. Il se retrouverait près du Tiergarten à 13 heures précises, devant la boutique du marchand de journaux. C'est cet homme, un vieil ami de Martin, il le connaissait aussi depuis la belle époque, qui avait désormais les passeports. Il les glisserait dans le Völkischer Beobachter lorsque Martin lui en demanderait 3 exemplaires. Les 4 gardes en faction devant la maison de Subhas Chandra Bose, au 7 Sophienstraße de Charlottenburg, montrèrent quelque étonnement lorsque la voiture diplomatique s'arrêta le long du trottoir. Les ordres étaient clairs. Il ne devait laisser entrer aucun inconnu. Bose était, certes, l'invité de l'Allemagne, mais un invité sous surveillance. Pas question de le laisser faire n'importe quoi. La Gestapo elle-même l'avait à l'œil depuis son arrivée à Berlin. Plus personne ne pensait que c'était un espion britannique. Son passé, étudié à la loupe, prouvait qu'il détestait l'Angleterre. Mais de nouvelles rumeurs laissaient entendre que Bose pouvait être une taupe soviétique. Les Allemands savaient que l'année précédente, des communistes avaient aidé Bose à passer en Afghanistan. Dès son arrivée à Kaboul, le chef indien avait cherché à prendre contact avec l'ambassade du RSS. N'y parvenant pas, il s'était tourné vers la légation d'Allemagne, également sans succès. La 3e porte, celle de l'ambassade d'Italie, fut la bonne. L'ambassadeur Alessandro Quaroni accepta de l'aider et lui fit établir un passeport au nom d'Orlando Mazzotta. Bose prit alors le train pour l'URSS, puis, une fois à Moscou, s'envola pour Berlin. Sa cavale à travers l'Inde, l'Afghanistan et l'Europe avait duré plus de 2 mois. Or, ce que les nazis acceptaient en avril 1941, puisque les Allemands et les Soviétiques avaient conclu un pacte d'amitié, allait bientôt devenir suspect. Étant donné que le chef indien s'était d'abord adressé aux Russes à Kaboul et était passé par Moscou, c'est peut-être qu'il était lui-même communiste. Hitler, Goebbels, Ribbentrop et Kepler écartaient cette hypothèse par trop fantaisiste. Mais en 1942, certains membres de la Gestapo restaient persuadés qu'il y avait un lien secret entre Bose et l'URSS. Les gardes hésitaient, mais Christen leur en imposait, par la qualité de son allemand, la prestance de son uniforme et sa voiture diplomatique. Il évoqua les noms de Ribbentrop et de Canaris et suggéra aux soldats de leur téléphoner. Ceux-ci hochèrent la tête. Appeler Ribbentrop et Canaris, pourquoi pas Hitler en personne? Ils se contentèrent d'appeler la résidence de Bose. Abid Hassan Safrani, le secrétaire, vint accueillir Christen. Reprenant son accent indien, Christen expliqua en anglais l'objet de sa mission. La nonciature apostolique souhaitait apporter un soutien moral et spirituel aux catholiques de la Légion indienne et une courte audience était sollicitée. Hassan, qui était musulman, ne connaissait rien aux arcanes du Vatican, mais le terme nonciature l'impressionna. Bari Meharvani Hogi, ajouta Christen. Hassan sourit et lui fit signe de la main. Entrez, je vous en prie. Mais l'entrevue devra en effet être brève, car son Excellence part tout à l'heure pour Hambourg, et nous avons encore quelques détails à régler. Bose venait justement de se lever, très tard comme d'habitude, car il ne se couchait jamais avant 4 heures du matin. Christen l'aperçut de loin dans le jardin. Habillé à l'occidentale, l'Indien portait une chemise blanche et arborait ses habituelles lunettes d'écaille. Il ressemblait aux nombreuses photos que le colonel Barnes lui avait montrées à Édimbourg. Hassan fit les présentations et repartit vers la maison, tandis que Bose, flatté par cette visite inattendue, priait Christen de s'asseoir sur un banc près des rosiers. Pour le mettre en confiance, Christen se lança dans une explication en hindoustani. Bose écouta avec attention, acquiesça à plusieurs reprises, puis se décida à répondre. Il le fit en anglais. L'homme politique qu'il était réclamait la disparition de l'anglais en Inde, mais c'est dans la langue de Shakespeare qu'il se sentait à l'aise. Ainsi donc, reprit Bose, le Vatican s'intéresse à l'Inde libre. Dois-je comprendre que le Saint-Siège serait disposé à reconnaître mon gouvernement en exil? En bon diplomate, le faux prélat déclara que cette hypothèse, en effet, n'était pas à exclure, car même si les catholiques étaient peu nombreux en Inde, ils y représentaient une élite que sa sainteté Pie XII ne pouvait ignorer. D'autant que, depuis 1939, les Anglais de l'Inde persécutaient les religieux indiens et allemands. Bose restait songeur. Mais pourquoi diable la nonciature de Berlin refuse-t-elle alors de me recevoir, s'étonna-t-il. Ce que vous me dites confirme que l'Inde libre et le Vatican sont du même bord. Christen sourit. Vous connaissez comme moi la position fort délicate du Vatican. Il y a des catholiques dans tous les pays mêlés au conflit. En Allemagne et en Italie, bien sûr, mais aussi à Malte, en Angleterre, aux États-Unis et en Inde. Dès lors, sa sainteté se doit d'être prudente, mais le message qu'elle m'a chargé de vous transmettre doit être reçu comme un signe positif. « Acha, acha, thick hay !» murmura Bose comme s'il se parlait à lui-même. Il se leva soudain. « Venez voir mes fleurs, éminence. Ah, s'il n'y avait pas ce combat à mener, c'est à elles que je consacrerais toute ma vie. J'aimerais tant me retirer du monde. Je me vois bien dans un monastère du côté de Darjeeling. Vous connaissez l'Himalaya ? » Christen acquiesça. Un peu. Je suis allé à Shimla et à Shillong. Bose n'écoutait pas, fasciné par les fleurs qu'il avait devant lui. Regardez cette rose, éminence. Quelle perfection dans le dessin et la couleur. Il se saisit d'un sécateur et coupa une branche. Permettez-moi de vous offrir cette fleur en souvenir. C'est tout ce que l'Inde nouvelle peut vous offrir. Notre destin est aussi fragile que la beauté d'une rose. De quoi parlions-nous déjà? Ah oui, vous souhaiteriez visiter nos camps d'entraînement. Dans le seul but d'y rencontrer des catholiques. Bose hocha la tête. Il y en a quelques-uns, mais très peu, je le crains. Sachez, éminence, que je n'y vois aucun obstacle. mais ce n'est pas moi qui en déciderai. Eh oui, ne vous fiez pas aux apparences. Je suis un pion sur l'échiquier des Allemands. Un petit pion, rien de plus. Hitler déteste les Asiatiques. Oui, même ses alliés les Japonais, et a fortiori les Indiens. J'ai nettement dit au Führer, il y a quelques semaines, combien certains passages de Mein Kampf me choquaient. Mes remarques ont eu l'air de le surprendre. Il sourit tristement avant de poursuivre. J'envisage de quitter l'Allemagne. J'ai appris trop de choses qui ne me plaisent guère. J'ai même entendu dire que les Tziganes, nos cousins éloignés, étaient parqués dans les camps de travail. Ah, éminence, si les roses sont parfaites, le cœur de l'homme, lui, ne l'est pas. Et pourtant, je dois continuer à lutter contre les Anglais. C'est mon karma. Je vais vous faire une confidence, que je vous serai reconnaissant de ne pas révéler avant l'indépendance. J'attends un enfant, mon premier enfant. Combien de temps pourrais-je lui consacrer? Aurais-je même seulement le temps de l'embrasser et de le porter dans mes bras? Il reposa le sécateur sur la table du jardin. « J'ai des doutes, » fit-il, « des doutes sur mes choix. Et si je m'étais trompé ?» Christine sentit dans sa poche la crosse du petit revolver qu'il y avait glissé avant d'arriver à Charlottenburg. Cela aurait été si facile de le sortir et de tirer à bout portant. Bose n'aurait eu aucune chance. Et les gardes encore moins, car tout le Bahadur Tapa les aurait éliminés avant qu'ils n'aient eu le temps de cligner des yeux. N'était-ce pas pour cela, d'ailleurs, qu'on avait fait sortir Lloyd de prison? Il devait éliminer cet Indien, ami du Reich et ennemi du Raj. Facile d'en décider à Downing Street, mais à qui ferait-on croire que ce Bose méritait la mort? Tous deux étaient là aujourd'hui, face à face, au milieu de ces roses, symbole d'amour et de beauté, si parfaite en effet. Pour la première fois depuis longtemps, Christine se sentait indien. Shillong, après tout, était plus proche de Calcutta que de Londres. C'est en Inde qu'il était né et que reposaient ses parents, et il avait même un peu de sang indien dans les veines. Restait le devoir d'État, mais de quel État s'agissait-il? L'Angleterre, le pays de son père, pour lequel lui-même avait combattu en 1418, l'avait jeté en prison sans jugement. Au nom de quel intérêt supérieur Christine allait-il aujourd'hui devenir le meurtrier d'un autre Indien qu'aucun tribunal n'avait condamné? Il aperçut Tul Bahadur Tapa qui faisait les 100 pas devant la résidence en fumant une cigarette. Leurs regards se croisèrent et Christine comprit que son Gurkha non plus ne désirait pas la mort de Bose. Il me faut partir maintenant. Je vous contacterai à nouveau dans quelque temps. Si cela est impossible, eh bien, nous nous reverrons en Inde, Netaji. Le chef indien eut un sourire. Oui, éminence, c'est Netaji en effet qu'il faut m'appeler. Merci pour la rose. Je vais à mon tour vous faire un cadeau. Ne craignez rien surtout. Il sortit le revolver de sa poche et en retira une balle. Gardez cette balle, Netaji. Elle vous portera chance. » Il glissa à nouveau son revolver dans la poche, s'inclina et s'éloigna en direction de la rue. Bose le regarda partir. Quelque chose d'important venait de se passer, il le sentait bien, mais quoi au juste? Il glissa la balle dans la poche de son veston. « Ma foi, cela tombe bien, » pensa-t-il. « Je n'ai jamais eu autant besoin d'un porte-bonheur. » De loin, Tul Bahadur Tapa avait suivi toute la scène. Le Gurkha eut un large sourire quand Christine ressortit de la résidence. Il fit alors ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il se saisit de ses mains pour les embrasser. Les gardes les regardèrent avec étonnement. Ces diplomates étrangers avaient décidément des mœurs étranges. « Tout est terminé, » dit Christine, dès qu'il eut pris place dans la voiture. « Il ne nous reste plus qu'à filer en Suisse et à nous y installer. » Heinrich Himmler songeait justement à la Suisse et aux comptes bien garnis qu'il y possédait, quand deux nouvelles inquiétantes lui parvinrent. Le corps trouvé dans la Mercedes-Benz 770 incendiée sur la Unter den Linden était celui de Trudy Schneider, et Rudolf Breuer était mort sur la route de Weimar. Les deux événements n'avaient à première vue rien en commun, Mais fallait-il se fier aux apparences, puisque Trudy et Breuer étaient tous deux chargés de surveiller Jutta et Martin Wurtz. Himmler fit la grimace. Il ne saurait jamais ce que Trudy avait découvert. Paix donc à son âme. On pouvait en revanche espérer que Breuer, en fonctionnaire zélé, avait laissé un dossier sur les Wurtz dans son bureau de l'Abwehr. Il était urgent de le récupérer. Du coup, il fallait faire vite, et d'abord appeler Canaris, qui, comme d'habitude, se ferait tirer l'oreille. Puis Himmler enverrait un long message au quartier général. Pas question d'arrêter les Wurtz, amis d'enfance du Führer, sans l'accord de Hitler en personne. Il regarda sa montre, 12h45. Trop tard. Canaris avait horreur d'être dérangé au milieu de sa collation. Eh bien, Himmler attendrait le début de l'après-midi, se ferait envoyer le dossier préparé par Breuer et prendrait alors toutes les dispositions pour arrêter les deux traîtres. On pouvait d'ailleurs lancer l'opération sans plus tarder. Il décrocha son téléphone et donna des ordres. À partir de cet instant, les Wurtz seraient sous surveillance, et une équipe de SS était chargée d'investir leur appartement. Ma foi, on pouvait dire ce que l'on voulait de Breuer. C'était un casse-pied, certes, mais à force de compter les trombones, les kilomètres et les passeports, il avait tout de même eu le nez fin. Qu'il repose en paix là où il était. Une haute décoration lui serait attribuée à titre posthume. On la porterait en grande pompe à sa pauvre mère, ce qui ferait d'excellentes photos pour la propagande du docteur Goebbels. Sur le coup de 14h, l'amiral Canaris, de retour à son bureau, trouva enfin les messages qui l'attendaient. Le premier, fruit de l'enquête menée par Volpone, venait de Rome. Et c'est sans surprise que l'amiral découvrit que le prélat Goanet, présent ce matin même à l'Abwehr, était un espion venu de Calabre. Ce que confirmait le second message, rédigé par une de ses secrétaires. La nonciature apostolique de Berlin niait tout contact avec un prétendu monseigneur da Silva, lequel ne pouvait être qu'un imposteur. Le troisième message était un câble qui émanait de l'un des agents de l'Abwehr au Vatican. Le Goanet da Silva était, semble-t-il, mort au Caire dans des conditions mystérieuses. Tout se recoupait. Le vrai da Silva était bien mort en Égypte, et c'était un espion britannique qui avait pris sa place. Canaris eut un sourire. Tout cela l'amusait beaucoup. Il sourit moins lorsque, quelques minutes plus tard, le Reichsführer Himmler en personne lui fit savoir par téléphone que l'un de ses hommes viendrait prendre livraison du dossier que feu l'Oberfeldwebel Rudolf Breuer avait établi sur Martin Wurtz. Feu Breuer? Eh oui, le fonctionnaire modèle était mort en mission, le matin même, sur une des routes du Reich. L'amiral hocha la tête. Décidément, les nouvelles intéressantes mettaient trop de temps à lui parvenir. Wilhelm Canaris ordonna à l'une de ses secrétaires d'aller chercher le dossier Wurtz, puis demanda un nouveau numéro au standard téléphonique. Puisque Martin était en danger, il n'y avait pas une minute à perdre. Il fallait prévenir le Führer de toute urgence. Après une heure de patiente recherche, le doute n'était plus permis. Si Breuer avait préparé un dossier sur les Wurtz, il l'avait emporté avec lui à Buchenwald. En cherchant bien, on en trouverait peut-être les cendres dans la luzerne, quelque part entre Potsdam et Weimar. Dans son placard, à la lettre W, on trouva des dizaines de W, des Wagner, des Walter, des Weber, des Winzer et des Wolf, mais aucun Wurtz. Personne, bien sûr, ne chercha à la lettre B, là où dormait pour longtemps sans doute le dossier Brutus. Sur le coup de 16h, Canaris se décida à convoquer Jutta et Martin dans ce bureau, et c'est alors aussi qu'il découvrit que tous deux avaient disparu. Banlieue de Berlin. Tandis que Jutta et Martin, arrivés à 15h, prenaient un verre en compagnie de Tullbahadur Tapa, Christen décida que son éminence Monseigneur da Silva pouvait enfin défroquer. Il se débarrassa de ses encombrants vêtements et reprit dans le coffre de la voiture ses habits civils. Puis il se rasa et s'est rajeuni de 10 ans que Lloyd apparut dans le salon. Il trinqua à son tour, tout à la joie de retrouver Martin, dont il avait naguère été si proche. Il y avait encore beaucoup à faire. Tout d'abord, détruire ce qui aurait pu, par la suite, mettre le major Drucker en difficulté. Arracher les plaques d'immatriculation de la voiture du Vatican, travail d'ailleurs inutile, tant il y avait peu de modèles en circulation dans le monde. Il fallait aussi vérifier que l'Opel de l'officier était en état de marche et y glisser les armes. Quand la nuit tomberait, ils iraient se débarrasser de l'Hispano-Suiza du Saint-Siège. Christen avait noté la présence d'un lac à 2 kilomètres de la maison. Il serait assez facile d'y faire disparaître le véhicule avant la tombée de la nuit. Ils partiraient le lendemain matin en direction de Kirchenhausen. Puisqu'ils avaient des provisions d'essence, Martin décida de prendre le chemin des écoliers, qui leur permettrait d'éviter les grands axes où la surveillance policière était, par définition, la plus présente. Ils passèrent une soirée de fête. Le major Drucker était un connaisseur. Ses bouteilles de Chambertin étaient excellentes. Bavière. Une vie suspendue à un fil. C'était déjà depuis longtemps, pensait Jackson, et en tout cas, depuis que le cercan s'était déclaré. Il refusait toujours d'appeler l'ennemi par son nom. Oui, à un fil. Encore plus juste cette nuit-là, alors que tirant sur les sangles de son parachute, il se rapprochait du sol. Quelques instants plus tôt, juste avant que le policier ne bascule dans le vide, le navigateur de Stend l'avait rassuré. Le saut aurait lieu exactement au point prévu, entre Wolfratshausen et Holzkirchen. Les vents étaient favorables, et avec un peu de chance, il éviterait le lac de Starnberg, où flottait encore le fantôme de Louis II de Bavière et les marécages de la région, de part et d'autre de la rivière Isar. Le saut fut presque agréable. Était-ce parce qu'il se déroulait de nuit, ou parce que, après une nouvelle dose de morphine, tout apparaissait soudain sans importance? Au point où il en était, Jackson aurait même accepté de sauter sans parachute. Par héroïsme, il ne croyait pas à ce concept si cher aux politiques, qui, de leur fauteuil, loin de l'Allemagne, envoyaient les 100 grades à la boucherie. Par patriotisme, non, puisque c'était le pays de Galles que Jackson aimait, pas l'Angleterre. La vérité était plus banale, par simple honnêteté. N'étant pas un homme politique, il se sentait, lui, coupable d'avoir envoyé Christen et Tapa au casse-pipe. S'il pouvait les arrêter à temps et les aider à regagner l'Angleterre, alors son propre combat n'aurait pas été vain. À côté de cela, les hommes de Downing Street prenaient le thé et dormaient sur leurs deux oreilles. C'est bien eux pourtant qui avaient commandité le meurtre de Bose. Ils oublieraient vite ce détail et remettraient Christen en prison à son retour s'ils estimaient soudain que sa mission avait compromis l'avenir de l'Empire. En attendant le jour où, secoués par une tristesse théâtrale, ils évoqueraient sa mémoire avec des trémolos dans la glotte. Quand il toucha terre, il eut le sentiment de s'arracher soudain à son état d'apesanteur. Le choc fut brutal, et Jackson resta allongé un long moment. Son premier geste fut de regarder sa montre, 11:15. Il replia le parachute et le cacha sous un épais buisson. Puis il consulta sa boussole. Si le navigateur avait dit juste, il devait se trouver à 2 ou 3 kilomètres du monastère. Il suffisait donc d'avancer dans la bonne direction. Aucun bruit suspect n'était perceptible. Si une patrouille le surprenait, Jackson improviserait. La nuit était claire et il lui était facile d'éviter les obstacles naturels qu'il rencontrait. De temps à autre, on entendait dans un lointain indéterminé, quelque part du côté de Munich, le martèlement de la DCA. L'avion de Stend était déjà loin. Jackson marcha pendant 2 heures. Alors qu'il se croyait perdu, il aperçut à 100 mètres devant lui l'enceinte du monastère. Il décida de souffler quelques minutes, et malgré le risque qu'il prenait en l'allumant, il prit son paquet de gauloises dans la poche intérieure de son blouson et s'accorda le réconfort d'une cigarette. Puisqu'il était censé être français, il avait dû laisser à Londres sa ration de Woodbines. Puis il alla sonner. Il était prêt à tout, y compris à se retrouver face à un Allemand. car Paternoster n'avait pas eu de contact avec Alcibiade depuis des semaines. Mais ce fut bien le père Drucker qui, après une longue attente, vint enfin lui ouvrir. « Bonjour, mon père, » dit Jackson en français. « J'arrive de Londres et je dois contacter sans retard les deux visiteurs que vous avez reçus il y a quelques jours. L'opération doit être annulée. » Le moine hocha la tête et répondit avec un fort accent « De qui parlez-vous, mon fils ? Il n'y a que quelques vieux moines dans cette maison de Dieu. Cela fait des semaines que nous n'avons reçu aucun visiteur, si ce n'est un colonel de la SS. » Jackson fit la grimace. « Bien, vous avez raison. J'aurais dû vous donner le mot de passe. Il faut de tout pour faire un monde. » Le père Drucker eut un large sourire. « Surtout par les temps qui courent. Entrez vite. » Quelques instants plus tard, il se retrouvait dans le parloir et Jackson expliquait à son hôte l'objet de sa mission. Le moine hocha la tête. « Vous ne pourrez pas rester ici très longtemps. Une nuit tout au plus. » J'attends un débarquement de responsables du parti d'un jour à l'autre. Espérons seulement qu'ils n'arriveront pas au champ du coq. Vos deux amis sont près de Berlin, chez mon fils. Et oui, j'ai été marié dans une autre vie, avant de perdre ma femme et de me consacrer à Dieu. Je sais, mon père, je connais votre dossier. Fort bien. Alors, pour contacter vos collègues, le plus simple est de leur téléphoner. S'ils n'ont pas été arrêtés, ils sont rentrés au bercail pour la nuit. Évidemment, téléphoner est un risque. Notre appel laissera une trace, et le monastère est peut-être sur écoute. Bon, il est hors de question que vous parliez, puisque vous ne connaissez pas l'allemand. Que dois-je dire? Que l'opération est annulée. La phrase prévue pour cela est la suivante. La tante Bertha est décédée. Charmant. Suivra l'heure du rendez-vous. Disons 12h30. Pas question de donner l'heure exacte. La règle ce mois-ci est d'ajouter 4 heures. De plus en plus simple. Quelle est la gare la plus proche pour aller vers l'ouest? Welheim, à 30 kilomètres d'ici. Je pourrais vous passer notre vieille moto pour vous y rendre. Une excellente Hecker. En passant par la campagne, vous y serez en 3 quarts d'heure. Je vous indiquerai l'itinéraire le plus sûr. Parfait. Dans notre langage codé, la gare devient le cimetière, ce qui donne le message suivant. La tante Bertha est décédée. Rendez-vous au cimetière de Welheim aujourd'hui à 16h30. L'oncle Erich vous y attendra.